Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Priorité santé s'intéresse aujourd'hui aux conséquences du manque d'amour. Nous sommes tous confrontés à un moment de notre vie à ce sentiment de manquer d'amour. L'impression d'être un peu oublié, abandonné, dévalorisé. Le deuil, la rupture amoureuse, la perte d'un emploi, les échecs sont autant d'événements qui ravivent ce sentiment d'abandon. Et les réactions varient selon les personnes. Certaines deviennent dépressives, d'autres agressives ou encore hyperactives. Alors quels sont les symptômes du manque d'amour? Quel est l'impact de ce manque d'amour lors de l'enfance sur l'âge adulte? Et je dirais surtout, comment faire face aux épreuves de la vie? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, Jean-Claude Lyodet, qui est psychologue et psychanalyste. Il vient de publier « Quand l'amour manque, comment se reconstruire ?» C'est un livre qui paraît aux éditions de l'Archipel. Si vous avez envie de l'appeler pour avoir des conseils ou d'apporter un témoignage, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone Oumoudi Kan, qui est psychologue clinicienne à l'hôpital de Fann à Dakar, au Sénégal. On retrouvera la chronique de Sylvie Hasbro, qui s'intéressera d'ailleurs au manque d'amour développé dans les chansons. Et pour terminer, on retrouvera la chronique nutrition de Stéphane Besançon.
RFI.
Jean-Claude Lyodet, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi ce sentiment de manque d'amour commence-t-il dans l'enfance, mais vous dites même avant la naissance?
Oui, avant la naissance, puisque la manière dont on conçoit un enfant est liée à finalement toute la chaîne des générations précédentes, structure fait qu'on désire d'une manière ou d'une autre faire un enfant, et donc ce désir-là, il va s'inscrire chez l'enfant dans sa façon d'être. Donc ça commence même avant. Oui.
Même avant la naissance.
C'est pour ça qu'on dit parfois qu'on est beaucoup plus que deux à faire l'amour quand on conçoit un enfant.
Il y a toutes les générations au-dessus, c'est ça. Qu'est-ce qui se joue, de façon très simple, on y reviendra, mais qu'est-ce qui se joue pendant l'enfance?
Ce qui se joue essentiellement, pour le dire en quelques mots, la construction du sentiment de soi, de l'estime de soi, elle se fait pas tout seul, elle se fait à travers l'amour qu'on nous porte. À titre d'exemple, je dirais que on se voit quand quelqu'un nous voit. Donc, il faut être vu, être aimé pour pouvoir ensuite
exister,
puis surtout après combattre les épreuves de la vie. C'est qu'on voit bien que pour certaines épreuves, quand on est adulte, on le vit soit comme une confirmation de ce qu'on savait toujours, à savoir que vraiment, on n'est finalement pas grand-chose, ou bien alors, au contraire, on passe l'épreuve avec énergie. Bon, cette différence de réaction est liée justement à ce qui s'est passé dans l'enfance.
Quels sont les symptômes du manque d'amour? Qu'on comprenne bien de quoi on parle. C'est beaucoup plus large que la question de la rupture amoureuse.
Ah oui. Par exemple, la perte d'un emploi, c'est aussi, imaginairement, un manque d'amour. Le fait de ne pas réussir quelque chose peut être lié à ça. Hein. Donc, en gros, je l'ai déjà un peu évoqué, le symptôme clé le plus important, c'est que du coup, on est confirmé dans sa façon de ne pas s'aimer soi-même. C'est-à-dire, on pourrait dire l'estime de soi. Alors pourquoi? On estime, c'est qu'on n'a pas assez bien fait, qu'on n'est pas assez bien. Donc
avec l'éternelle phrase, je suis nul.
Voilà, je suis nul. Donc c'est de l'auto-dévaluation assortie avec un peu de culpabilité, parfois de la honte. Hein. Bon, alors tout cela nous amène à déprimer. Donc on est triste, on n'est pas bien, on ne sait plus quoi faire, on n'a plus d'allant, comme on dit, hein, c'est du côté de la dépression. Et puis on peut avoir des sentiments beaucoup plus profonds. Vous avez des gens qui vivent des angoisses d'abandon, le sentiment qu'ils sont hors du monde, que personne ne les voit. Bon, je crois que c'est un sentiment encore plus profond que le sentiment de dépression et qui renvoie vraiment à des vécus très 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 anciens, hein, où le sentiment de ne pas exister.
Hein, c'est un sentiment personnes. Alors, il y a ce sentiment de dépression, puis oui. D'autres personnes réagissent un peu différemment, en étant au contraire, oui. Ou agressives, ou hyperactives, oui. C'est ça?
Alors, dans le déni, c'est-à-dire que c'est pas grave, on l'entend souvent, hein. Moi, je suis solide, ça, pour moi, ça me fait rien du tout, hein. Et donc, on va rentrer dans l'hyperactivité, pour vraiment dénier la chose. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle les quérulents, les agressifs, les gens qui en veulent au monde entier. C'est aussi une réaction très forte. Alors, on peut avoir l'impression de d'être en face de quelqu'un qui est fort, qui est agressif. En fait, cette agressivité-là vient en réaction aux symptômes dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la dépression et la dévalorisation de soi.
Vous dites d'ailleurs que certaines délinquances s'expliquent tout simplement par un manque d'amour.
Oui, bien sûr. On est tout à fait dans la même logique, la logique de l'agressivité, avec bon ce qu'on sait bien, hein, ce dont on parle souvent, c'est-à-dire que provoquer, agresser, c'est peut-être rechercher enfin une fois
une forme de reconnaissance, enfin
ouais,
une forme de.
Je dis une gifle exprès, je veux dire que on a par exemple quelqu'un qui va peut-être nous parler tout à l'heure. Quand on n'a pas eu de père, quand le père présent est absent, si vous fout une baffe. Alors, c'est pas recommandé, mais c'est quand même un signe d'amour, parce que là, on existe pour l'autre. Si l'autre et donc, ce que le délinquant recherche, c'est quelque chose comme ça, hein, c'est-à-dire une réaction de la loi pour lui dire stop, qui pour lui est une reconnaissance.
Sur cette question, justement, du manque de père, hein, pas de la délinquance, on a Dieudonné au téléphone qui nous appelle d'Ouvira en République démocratique du Congo. Dieudonné, bonjour.
Ah, Dieudonné n'est pas
là. Oui, bonjour.
Si, bonjour Dieudonné.
Bonjour.
On vous
bonjour.
Écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Dieudonné.
Oui, bonjour.
Il faut démarrer, ça va. Bonjour, on vous a dit bonjour, Dieudonné. On vous écoute.
Dites-nous le motif de votre appel.
Oui, c'est mon historique.
Oui.
Moi, j'étais né. Là, ma mère était enceinte. Alors, mon père a abandonné ma mère. Et après,
oui.
Alors, il a fait 2 semaines, 3 semaines, elle est encore réparée. Quand j'avais 18 à 20 ans,
oui.
Il a encore revenu, alors j'étais reparti pour des bons pour ne pas encore revenir.
Oui.
Alors maintenant, j'ai appris qu'il est mort.
Oui.
Alors moi, je n'ai pas connu alors, cette affection-là des pères. Je n'ai pas prononcé les mots papa avec enthousiasme, mais avec joie. Mmh. Alors, moi aussi... J'ai engrossé une fille.
Oui.
Alors, là, j'ai un garçon maintenant qui a 6 ans.
Oui.
Alors, cet enfant-là, il y a des moments où j'ai peur de rester avec lui. Il y a des moments où je l'abandonne, je confie ça à ma famille, à ma mère. Alors, et surtout, mon entourage-là, j'ai honte des parents d'entourage que j'ai un fils. Alors, pourquoi je peux vivre avec cet enfant? Comment je peux vivre? Et comment j'ai pu avoir cette affection?
Ouais, Dieudonné, votre question est vraiment très intéressante. Je vais juste me permettre de résumer, parce qu'il y a une téléphonie qui n'est pas très très bonne avec la RDC. Vous racontez que votre père, en fait, est parti quand votre mère est tombée enceinte, car il était déjà marié. Il est revenu vous voir quand vous avez 5 ans, puis de nouveau reparti, puis de nouveau à 18-20 ans. Depuis, il est décédé. Vous avez eu un enfant que vous n'aviez pas forcément choisi d'avoir. Et vous vous demandez un peu aujourd'hui comment faire pour être heureux avec lui, savoir lui montrer son affection, accepter qu'il vous appelle papa, un mot que vous n'avez jamais prononcé. Et comment faire pour ne pas avoir peur d'ailleurs d'avoir d'autres enfants plus tard, Jean-Claude Lyodé, voilà quelque chose qui est bien lié au manque d'amour.
Ah oui, tout à fait. Mais il me semble que ce que vous nous dites, Dieudonné, c'est que vous refaites avec votre fils ce que votre père a fait avec vous. Alors je crois que vous avez un repère, c'est de vous dire ce que vit mon fils, ça ressemble à ce que moi j'ai vécu. Ça vous donne un repère pour être avec lui.
Justement, comment ne pas, parce que c'est toute la question finalement. Oui. Il a très bien compris Dieudonné le lien.
Oui, tout à fait.
Il a analysé, je dirais pas besoin de nous pour comprendre le lien avec ce qu'il a vécu dans son enfance. Oui. Mais comment faire justement maintenant pour pas que ça ait un impact sur son fils?
J'ai envie de dire que je pense à ce que disait Françoise Dolto dans une situation comme ça. T'as pas de papa, eh bien, ça a des bons côtés parce que tu vas devoir être beaucoup plus fort, plus jeune, et puis des papas, tu vas en trouver d'autres. C'est-à-dire que des gens qui peuvent être comme des pères, c'est-à-dire, je sais pas, c'est un oncle, un grand-père, un enseignant. Et sans doute que Dieudonné, il l'a oublié, mais dans son enfance, il a eu des gens qui l'ont aidé à se construire. Puisque s'il s'était pas construit, il poserait pas les questions qu'il pose. Il est d'une clarté absolue, Dieudonné. Hein, vous êtes d'une clarté absolue. Donc... Ne pas rester accroché au manque du père, essayer de voir quels sont les papas, les gens qui ont un rôle paternel autour de soi, parce que
pour voir un peu comment fonctionne un père finalement.
Voilà, sachant que de toute façon, ce que nous dit Dieudonné est important, c'est-à-dire quand on n'a pas pu s'identifier facilement à un père, c'est difficile d'être père. Hein. Mmh. C'est difficile, mais bon,
je
crois quand même, il faut pas infliger à l'enfance qu'on a vécu soi-même. Et on a un repère pour savoir que c'est pas ce qu'il faut faire.
Ce que je trouve très intéressant dans ce que raconte Dieudonné, c'est qu'il a parfaitement compris les ressorts de ce qui se joue avec son fils lié à ce qu'il a vécu.
Oui.
Et moi, je trouve intéressant parce que c'est pas parce qu'on a compris ce qui se joue, qu'on arrive à le surmonter. Oui. Et c'est quoi là vos conseils de psy justement?
Ah ben vous savez, alors ben, je vais faire référence à ce qui se passe dans une psychothérapie. Quoi,
oui.
Hein. Il suffit pas d'avoir une vision intellectuelle des choses pour que ça se passe. C'est vraiment, ça passe vraiment par des mécanismes plus profonds, notamment dans un cas comme celui de Dieudonné, de pouvoir intégrer en soi, hein, mais ça c'est en dehors des mots, des modèles, ce qu'a dit un grand-père, ce qu'a dit, je pense à un patient qui parlait justement récemment d'une situation de ce genre, et au bout de plusieurs mois, d'un seul coup, il s'est rappelé une parole de son grand-père et il a tiré tout un fil. Son grand-père avait été important pour lui et son père finalement c'était son grand-père. C'est un type qui a 40 ans, il n'avait jamais pensé à ça.
Est-ce que ce serait intéressant aussi que Dieudonné raconte finalement à son fils ce qui lui est arrivé?
Bien sûr, bien sûr. Alors je pense que les secrets, il n'y a rien de pire. Alors bien sûr, il faut raconter les choses dans un langage accessible à l'enfant, mais dire à son fils, tu sais, bon, bah, si parfois j'ai du mal à être ton papa parce que moi j'ai pas eu de papa, mais je souhaite être ton papa. Rien que ça, le fils peut le comprendre. Et à la limite, je dirais, aider son père.
Oui, c'est ça. Le fils peut aider. Merci beaucoup, Dieudonné. En tout cas, bon courage à vous.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons du manque d'amour et surtout, je dirais, comment surmonter ce manque d'amour avec Jean-Claude Lyodé, qui est psychologue et psychanalyste et qui vient de publier un livre sur le sujet. Quand l'amour manque, comment se reconstruire? Sylvie Hasbrouck, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez sur les émotions avec, entre autres, des expositions et vous venez régulièrement mettre votre grain de sel dans cette émission. Vous avez trouvé quelqu'un qui partage l'analyse de Jean-Claude Lyodé sur ces questions de manque d'amour? J'y aurais pas pensé.
C'est Céline Dion, Claire. Jean-Claude Lyodé, votre travail trouve un écho retentissant dans chaque chanson de Céline Dion. Tout y est, il ne manque aucun chapitre.
Ah,
démonstration.
Bon.
Comment font ces autres à qui tout réussit? Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. J'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait.
Voilà, c'est un petit peu comme des mantras qu'il faut connaître par cœur. Les chansons de Céline Dion sont écoutées dans le monde entier. Elles sont diffusées en karaoké sur Internet. Et avec « S'il suffisait d'aimer » qu'on vient d'écouter, le légendaire espoir amoureux est décortiqué avec précision. Ce premier extrait, Claire, reprend l'ouverture de votre ouvrage, Jean-Claude Lyodé. Et oui, l'amour est tout, mais il est insuffisant. Voilà bien un problème auquel Stanislas Dehaene, qui est auteur du livre « Cerveau » aux éditions La Martinière, répond en expliquant que, contrairement à la plupart des espèces animales, les étapes de fabrication des neurones dans le cerveau humain se font en même temps, lui permettant une plus grande sensibilité au monde extérieur. Mais voilà, le revers de la médaille, c'est que le cerveau humain devient aussi plus vulnérable aux incidents externes. Je vous épargne l'extrait suivant, uniquement parce qu'on manque de temps. Dans « Qui peut vivre sans amour ? » Peur, colère, dégoût, scande le refrain. Céline Dion s'énerve cette fois parce que, je cite, « L'amour est le pire des fléaux qui nous attire, cherche à nous plaire pour nous faire plonger en enfer. » Mais voilà, personne ne peut vivre sans. Problème suivant, que vous-même, Jean-Claude Lyodé, évoquez d'une façon légèrement différente, à travers différents exemples que Céline n'a pas encore introduits dans ses chansons, mais qui nous amène à la troisième partie de cette chronique, avec la chanson « Parler à mon père ». Et là, c'est la fuite qui prend la part belle, peut-être pour se couper de ses émotions.
Je voudrais oublier le temps, pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais
décrocher la lune. Je voudrais même sauver la terre, mais avant tout.
Et comme toujours, Sylvie Hazebrouck, on constate que tout remonte à l'enfance et ce qu'on a vécu enfant nous marque à vie.
Mais le vrai drame, c'est qu'on ne change pas. C'est pas moi qui le dis, c'est encore Céline Dion, dans une quatrième chanson que voici. Et là, on frôle le mot à mot de votre livre, Jean-Claude Lyodet.
On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas. Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste le temps de rêve d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nul et ses instincts d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas.
Voilà, en fait, Céline Dion, c'est la psychothérapeute de Las Vegas. On arrive ici à une sorte de maturité émotionnelle, si je peux me permettre. Autant faire face avec calme, assumer ce que l'on ressent. La chanson se termine par la toute petite fille qui est au fond de Céline Dion. Le message est clair, autant se réconcilier avec l'enfant qui est en nous. Tout ça, c'est bien joli sur le papier, mais comment pratiquer, me direz-vous, Claire? J'ai envie de vous dire, eh ben, comme on peut, à chacun sa solution de survie. Et c'est là que Céline Dion a du génie. On écoute.
J'irai chercher si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'ai cherché ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore.
Alors Sylvie, j'avais jamais écouté avec autant d'attention les paroles de Céline Dion.
Ah, vous avez vu, voilà. Alors celle-ci, c'est un peu le tube interplanétaire de la chanteuse. De là en déduire un besoin de message libératoire du public, je ne me risquerai pas sur ce terrain. Mais même Céline Dion est victime de débordements émotionnels, et c'est bien normal. L'amour est tout de même le sujet par excellence qui invite des tas d'émotions en énorme fête foraine, grande roue incluse. Alors puisque Céline est écoutée dans le monde entier, j'ai cherché sur internet quelques chiffres, des enquêtes, des éléments qui me permettraient de voir comment ce sujet est vécu ailleurs. Et finalement, ce dont j'ai eu envie de vous parler, c'est ce que j'ai trouvé en tout premier. En tapant chiffres et amour, je suis tombée sur numérologie et prédictions amoureuses. Bon, jusque-là, c'est logique. Mais en tapant détresse affective, là, je suis tombée sur une série de sites pour accros du sexe. Ensuite, j'ai tapé chiffres et manque d'amour et je suis tombée sur des petites annonces de rencontres. Résumons, Céline livre des textes et des mélodies défoulatoires pour hurler à plein poumon. Et si le mal persiste, Internet vous propose des tas de petites solutions pratiques. Nous voilà équipés.
Jean-Claude Lyodet, une réaction par rapport à tout ce que vient de dire Sylvie Hazebrouck?
Je pensais simplement qu'il peut y avoir sur le terme d'amour, il peut y avoir un quiproquo. Moi, quand je parle d'amour dans mon bouquin, bien sûr qu'il y a la dimension sexuelle amour aussi existe, mais l'amour, ça va bien au-delà de ça. Je pensais à cela.
Voilà. Et ce qui est intéressant en tout cas, c'est que ce genre de thématique est effectivement reprise dans les chansons en général. Là, on a pris l'exemple de Céline Dion. Mais ce qui est intéressant avec cette compréhension, que ça remonte à l'enfance.
Oui, c'est vrai. Bon, je pense que globalement, on le sent souvent, on s'en rend compte. Mais dans le détail, on le sait pas toujours.
Et ce que vous dites, c'est qu'on a tous traversé une série d'abandons. Faut pas croire.
Oui. Notre vie est faite d'une série d'abandons. C'est par les abandons qu'on grandit. Alors, le premier abandon, c'est quand même l'abandon de sa mère à la naissance. C'est quand même une coupure fondamentale.
Après ça, quand elle arrête d'allaiter, c'est ça?
Oui, quand elle arrête d'allaiter. Donc là, c'est parce que imaginairement, au temps de l'allaitement, on est dans le corps à corps, on est encore confondu, on est même mélangé, on se distingue pas encore de sa mère. Donc, deuxième séparation. Enfin, et puis, la grosse séparation amoureuse. Alors là, amoureuse dans le sens de amoureuse et sexuelle, c'est la séparation quand on a 5-6 ans où on a
on
tous...
y reviendra. Ouais, on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des conséquences du manque d'amour avec Jean-Claude Lyodet, qui est psychologue et psychanalyste. Il vient de publier « Quand l'amour manque, comment se reconstruire ?» C'est un livre qui est publié aux éditions de l'Archipel. Un téléphone, si vous avez envie de participer, le 33 1 84 22 75 75. Et nous avons au téléphone Oumuli Kane, qui est psychologue clinicienne au CHU de Fan à Dakar, au Sénégal. Oumuli Kane, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Comment ces questions de manque d'amour sont-elles abordées en consultation? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que vivent, de ce que racontent vos patients?
Oui, c'est des situations que l'on rencontre dans des cas de polygamie, par exemple. Par exemple, un couple dit moderne avec un, deux, trois enfants qui fonctionne apparemment en harmonie et tout. Et tout d'un coup, un beau jour, le mari vient annoncer à sa femme, voilà, je me suis remarié pour des raisons familiales ou autres, c'est mon marabout qui m'a donné une femme, des choses comme ça, quoi. Alors, là... Il y a plusieurs réactions, elle diffère d'une femme à l'autre, et compte tenu de son passé, à la fois...
Et justement, ça veut dire que chez certaines femmes qui le prennent mal, ce que personnellement je peux parfaitement comprendre, ça ravive quoi, un sentiment d'abandon, d'histoire d'abandon dans leur famille?
Oui, tout à fait, d'abandon et de trahison aussi,
oui.
De trahison surtout.
Ben oui.
On a cheminé jusqu'à présent, on vivait... on avait adopté un programme, un style de vie, et voilà que un intrus vient là déranger tout. Donc il y en a qui demandent le divorce carrément, ou qui portent plainte parce qu'on s'est marié sous le régime de la monogamie, et que ça c'est des impairs qui vont se régler au tribunal.
Vous avez aussi un exemple. Oui, vous avez aussi un exemple à nous donner d'une maman qui vient avec sa fille parce qu'elle trouve que sa fille refuse d'aider à la maison.
Oui, par exemple, elle venait pour sa fille qui était malade, qui avait besoin de soins, et quand elle allait mieux, un jour elle m'a dit voilà, elle n'accepte pas de m'aider dans les travaux domestiques, elle est soit à l'école, soit quand elle a fini ses leçons, elle est devant la télé et je n'arrive pas à me faire aider. Et à une autre séance, elle me dit, il y a quelque chose, par exemple, qui s'est passé avec ma mère, ma sœur et moi-même. Et j'étais la plus jeune et ma sœur, elle jouait à la reine. Elle ne faisait rien du tout dans la maison. C'est moi qui nous faisais tous les travaux domestiques, qui aidais ma mère ou la remplaçais carrément. Et voilà que cette situation se répète avec ma belle-famille. Son mari est immigré dans un pays étranger. Et elle est avec sa belle-famille, des belles-sœurs et la grand-mère, sa belle-mère. Et voilà, là aussi, rebolote, elle se tape tout le travail de la maison. Donc elle dit, elle voit que je travaille, que je suis encore au service des gens. Alors que la sœur, elle fait...
Et ça crée un conflit, du coup, avec la fille. C'est intéressant. Et est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça veut dire dans cette histoire, Oumuli Kane, que la maman a compris ce qui se rejouait avec sa fille?
Oui. La maman a très bien compris ça.
Oui.
Elle dit, c'est ce qui a même gâché ses études.
Oui.
Elle a été jusqu'en cinquième ou quatrième collège. Et elle a dû, c'est pour des raisons aussi du mariage, on l'a mariée précocement. Et elle a abandonné l'école. Et voilà.
Et une fois que cette maman a compris ce qui se rejouait avec sa fille,
elle a bien compris.
Elle a compris toute seule, d'après ce que vous racontez, c'est ça
comment
qui est intéressant.
Faire,
oui, c'est ça, exactement. Comment s'en sortir? C'est mon éternelle question.
Ouais.
Est-ce qu'elle va mieux maintenant dans ses rapports avec sa fille?
Oui, ça va. Il y a des hauts et des bas parce que la fille est vraiment en pleine adolescence aussi. Là, ça n'arrange pas les choses. Donc, c'est des heures de temps en temps. De temps en temps, elle dit, je suis contente, ça va mieux. De temps en temps aussi, bon.
C'est plus dur.
Jean-Claude, il y a une règle par rapport à ça.
La fille fait ce que la mère aurait aimé faire, finalement.
Oui.
Donc,
C'est-à-dire se mettre devant la télé tranquille.
Elle lui rend service. Alors bon, faut que la mère puisse reconnaître ce désir. Bah oui, mais j'aimerais bien faire. Alors, plutôt que dire elle m'aide pas, pourquoi mettre la fille dans la situation que de la mère, alors que la mère en est malheureuse, hein? Voilà comment parfois on crée des répétitions de situations qui sont pas heureuses, quoi.
Non, on reproduit, mais moi c'est mon éternelle question, je vous la pose depuis le début, Jean-Claude. Oui. On a compris, cette maman elle a
ça
aussi compris
pas.
Ce qui et ouais moi c'est ça que... c'est ça
que la thérapie consiste pas à faire avoir une sorte de représentation intellectuelle, quoi.
Voilà, et alors comment on arrive à passer au stade après, Sylvia, vous voulez
moi j'ai une question, est-ce qu'il y a une injustice à cet endroit-là, est-ce que certains d'entre nous sont plus enclins à se servir de ce qu'ils ont compris? Et puis il y en a qui n'y arriveront jamais. Est-ce que
il y a une injustice qui est culturelle, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont une capacité psychique à comprendre des choses, etc.
Et à transformer aussi.
Qui est liée à la culture, c'est-à-dire si vous avez jamais parlé de votre vie, vous n'avez manié que des pelles et des pioches, ben ça sera beaucoup plus difficile d'avoir une vie psychique complexe.
Mais sur la transformation, sur ce qu'on fait concrètement.
Oui. Alors ça, c'est lié à tout un jeu de, comme je disais tout à l'heure, d'identification, qui est complexe, qui, je dirais, ça tient. Alors ça,
vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi finalement. Non, mais je comprends, c'est compliqué.
C'est très compliqué parce que c'est des mécanismes inconscients justement. Alors on peut essayer de faire que ça se produise. Hein, on peut créer des conditions pour que ça se produise.
Quelles conditions?
On peut pas produire.
Quelles conditions, par exemple?
Ah bah, un remaniement de soi, une façon de se décaler, une façon. Ça passe beaucoup à travers des ressentis, parce que si, par exemple, si on décrit.
Et ça, le ressenti, on n'est plus dans l'intelligence, dans la culture, on est vraiment dans le ressenti, dans cette capacité à se repencher sur soi, qui n'est pas l'émotion.
L'un est souvent lié avec l'autre, quand même.
Qui n'est pas forcément lié.
L'un est lié avec l'autre. Et c'est très compliqué.
Au Moody Khan, j'imagine que vous êtes confronté à la même difficulté avec vos patients, une fois qu'ils ont compris, c'est comment passer à l'étape d'après?
Oui, justement, elle a dit à son mari, bon, amène-moi avec toi. Le mari a dit, non, c'est pas possible, il faut que tu restes dans ma famille. Elle lui dit, bon, dans ce cas, prends-moi un appartement.
Vous reprenez l'exemple. Oui.
Le mari a dit non. Voilà. Maintenant, elle a trouvé un moyen, c'est que pendant les vacances, comme ses parents sont dans un pays voisin, elle prend ses enfants et elle s'en va pendant les vacances. Pendant toutes les vacances, elle n'est pas chez ses parents. Alors là, elle a la possibilité de souffler, d'être à elle-même.
Et du coup, ça diminue les conflits avec la fille.
Oui, ce que Oulikan répond à votre question claire, là. Ce qu'elle dit, c'est que le fait d'avoir compris, ça a décalé quelque chose chez elle qui a libéré un certain désir. Et du coup, elle a eu envie elle a demandé des choses à son mari, elle trouve parce qu'elle peut plus, quoi, là. Donc ça a eu des effets, là.
Merci beaucoup, Oumou Khan. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital Fan de Dakar, au Sénégal.
Priorité santé. Sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons du manque d'amour. Jean-Claude Lyodé, les auditeurs sont très nombreux à appeler pour vous poser des questions, apporter des témoignages qui prouvent que ils ont parfaitement compris de quoi vous parliez, tout ce qui remontait à l'enfance. On a Fanta qui nous appelle de Conakry en Guinée. Fanta, bonjour.
Oui, bonjour.
Racontez-nous ce qui vous arrive.
Ben écoutez, moi, j'ai pas été élevée par mes parents et tout. J'ai été élevée par une tante qui était plutôt sévère. Elle m'a donné une très bonne éducation. Mais il n'y avait pas de communication, pas de dialogue. Tout ce qu'elle faisait, c'était les chicotes et un peu de tout. Mon adolescence a été plus ou moins catastrophique parce que il n'y avait pas de communication. Donc, je faisais ce que je voulais et tout. Et du coup, j'ai pas senti qu'elle m'aimait malgré toute l'éducation qu'elle m'a donnée et tout. Pas de réconfort, un peu de tout ça, quoi. Donc, du coup, moi, quand j'avais une relation amoureuse, je m'impliquais à fond. Je donnais tout ce que j'avais pour pouvoir avoir quelque chose en retour. Mais bon, jusque-là, c'est pas le cas. Ma dernière expérience amoureuse, c'est que récemment, je suis sortie avec un collègue. Au début, ça allait bien et tout, mais j'avais aucune expérience amoureuse professionnelle. Au bout de quelques mois, plus rien n'allait. C'était des disputes. Moi, je ne savais pas qu'il fallait tout le temps discuter sur des choses et tout. Et puis... je ne contrôlais plus, quoi, en fait, mes sentiments. Et au finish, il a fallu que je quitte ce travail pour pouvoir le laisser vivre. Donc, du coup, je veux savoir, est-ce que c'est lié un peu à ce que j'ai eu à l'enfance, ou plutôt si c'est carrément psychique, quoi, et tout. C'est ce que je veux savoir. Parce que dans mon cas, j'ai tout le temps besoin, je me suis tout le temps seule, j'ai tout le temps besoin de le confort, je sens que j'ai jamais été aimée en quelque
sorte. En tout cas, Fanta, ce qui est intéressant, c'est que vous faites le lien avec ce que vous avez vécu dans l'enfance,
oui.
Jean-Claude Diodé.
Oui, oui. Oui, puisque enfin, vous dites même que la bonne éducation, ça suffisait pas, mais vous reconnaissez en même temps que votre tante avait quand même un souci, des soucis vis-à-vis de vous. Elle a été sévère parce que il y avait quelque chose d'important chez vous pour elle, puisqu'elle voulait que vous deveniez sans doute une femme.
Et d'ailleurs, dans votre livre, vous dites aussi que les parents trop autoritaires, ça peut avoir justement, enfin les parents d'ailleurs ou l'éducateur oui. trop autoritaire, un mauvais impact.
Ah oui, bien sûr, parce que donc là, Fanta nous le dit bien, ça, elle a manqué de tendresse. Hein, vous dites bien, Fanta, que vous avez eu le sentiment de manquer de tendresse, si vous êtes en recherche permanente d'affection, hein, mais bon, peut-être que c'est compliqué à travailler, ça, hein, mais je pense peut-être que votre tante vous a aimé plus que vous ne le pensez. Hein. Et alors, il y a aussi quelque chose qui me frappe, c'est votre... comment dire, la façon dont vous avez parlé à tout le monde, je dirais, de votre relation avec votre collègue qui était, je crois, un supérieur hiérarchique. Ce qui m'étonne, c'est que vous l'ayez fait sans penser aux répercussions qu'il y avait.
Entre autres sur la vie professionnelle.
Ouais. Donc peut-être que vous aviez envie que ça se sache, parce que là, vous aviez le sentiment d'être aimé, quoi.
Et est-ce qu'il y a aussi une question d'une trop grande attente dans la relation amoureuse ?
Oui, une très grande attente. Fanta, vous dites, je ne me contrôlais plus, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais moi, ce que j'en comprends, c'est que vous étiez un petit peu toujours à la recherche de cet homme, et vous l'embêtiez un peu, vous étiez un peu
intrusif. Et maintenant, une fois qu'elle a compris tout ça, on fait comment pour s'en sortir ? C'est toujours la même question.
Il faut quand même pouvoir... Là, je pense que Fanta a un travail de réflexion sur soi à faire, qui ne peut pas se faire comme ça en 5 minutes à la radio. Hein. Donc, voilà. Ce manque d'affection... En gros, l'idée quand même, c'est que j'ai déjà suggéré, c'est que ce manque d'affection n'est pas si total que ça. Il doit y avoir des points d'accroche quelque part. Et puis, faut revisiter ce que c'est que ce besoin d'amour. Il est fait de quoi ? Pourquoi ? Et puis, sans doute finir par renoncer à ce besoin d'amour. Se renoncer, c'est-à-dire le transformer.
Et ce travail-là, j'imagine qu'il est difficile à faire seul.
Bien sûr.
Et à quoi sert un psy dans ces cas-là ?
Bah, il sert là, dans ce cas-là, je pense que il pourrait aider Fanta à petit à petit s'aimer soi-même, parce que quand on s'aime pas soi-même, il faut que l'amour vienne toujours de l'extérieur. C'est très très fragile comme situation, parce que on ne contrôle pas l'extérieur. Le psy pourrait lui permettre de réintégrer, je dirais, un certain amour de soi qui lui permettrait de pas être en demande permanente comme elle semble être, et qui lui permettrait de pouvoir vivre des manques d'amour, des ruptures, avec une relative, pas totale, sérénité, c'est-à-dire que sans être totalement détruite.
Mais c'est ça, ça peut être difficile sans que ça détruise.
Oui, parce que ce que Fanta nous dit, c'est que tout l'amour d'elle-même dépend de l'amour des autres, complètement.
Merci beaucoup, Fanta, et surtout, bon courage à vous. J'espère que c'est quelques conseils pourront vous aider. On a Sénat qui nous appelle d'Athis-Mons en région parisienne. Sénat, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors, bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI. Donc, je voulais témoigner concernant le sujet du manque d'amour. Alors, mon cas, ma mère est morte, j'avais l'âge de 8 ans.
Oui.
En sachant que j'ai pas grandi avec elle, parce qu'on était en Haïti auparavant, donc elle est partie pour les Antilles. Donc, elle est partie aux Antilles à l'âge de 6 ans.
D'accord.
J'avais l'âge de 6 ans, donc j'ai pas grandi avec elle. Et je l'ai retrouvée par la suite.
Oui.
Et 6 mois après, elle est morte. Donc, il y a toujours eu en moi ce vide. Et j'ai été recueilli par ma tante. Et malgré ça, j'ai jamais ressenti l'amour d'une mère vraiment. Même si elle essayait de tout son cœur de me donner l'amour qu'elle en fait méritait. Mais j'ai toujours trouvé que non, c'était pas l'amour de ma mère. C'est pas l'amour de ma mère. Elle a recueilli ma sœur et moi. Et ma soeur réussissait à l'appeler maman, mais pas moi.
Et aujourd'hui, vous allez comment?
Et aujourd'hui, il y a toujours ce vide. Je vais pas vous mentir, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai pleuré. Parce que je ressens toujours ce vide et j'ai l'impression que c'est une blessure qui va saigner, mais jusqu'à la fin de mes jours, je souffre.
Et est-ce que justement, Jean-Claude Lyodet, il y a moyen de pas de plus souffrir, mais en tout cas de moins souffrir?
Ce que nous dit Senna me fait penser à la question du deuil. Quand quelqu'un meurt, il faut bien qu'à un moment donné, on l'abandonne. Et quand on l'abandonne pas, on le garde mort en soi, et comment dire, et c'est terrible parce qu'on vit avec ça. Donc il faudrait, j'ai envie de dire qu'il faudrait que Senna se débarrasse de sa mère. C'est-à-dire qu'il accepte que c'est fini, parce que finalement ça l'a quand même empêché, ça vous a empêché, Senna, de vivre une bonne relation avec votre tante, qui apparemment elle avait envie de vous voir, de vous aimer, et votre sœur a réussi, hein, et vous étiez resté cramponné, hein, sur votre mère. Il faut que vous puissiez vous séparer de votre mère, et c'est pas fait. Alors je dis, il faut que, c'est facile.
C'est facile
à dire. Hein. Mais voilà. D'autant plus que quand même, Senna, vous avez vécu, si je crois avoir compris, que les 6 premières années de votre vie, vous avez vécu avec elle. Donc vous avez une histoire avec elle sur laquelle vous pouvez vous appuyer, puisqu'elle est partie, d'après ce que j'ai compris, hein, je me suis peut-être trompé, elle est partie aux Antilles quand vous aviez 6 ans. Mais oui, c'est dur à dire, mais les morts, il faut que l'on puisse les abandonner. À ce moment-là, on les retrouve d'une autre manière, on les retrouve dans la mémoire, mais ça fait plus mal. Ça fait plaisir de repenser au bon moment qu'on a vécu avec sa mère quand on avait 3 ans, 4 ans.
Merci beaucoup, Senna. Vous vouliez réagir, Sylvie Hasbrouck?
C'est une trahison en même temps. C'est très compliqué d'abandonner sa mère quand on l'a aimée pendant 6 ans, on l'a plus, et accepter d'aimer sa tante, c'est quelque part réussir à l'intérieur de soi à composer avec cette trahison d'abandonner l'amour de cette mère.
Non, ça serait une trahison si vous avez une mère imaginaire qui vous dit « aime-moi ». Alors, je pense à ce que Françoise Dolto disait. Alors, c'est une parole qui paraît toujours un peu bizarre. Françoise Dolto disait « Les parents aiment les enfants, mais il n'y a aucune obligation pour les enfants d'aimer leurs parents. Si les enfants sont obligés d'aimer leurs parents, ils sont fichus, ils sont coincés, ils sont prisonniers. »
Oui, mais c'est le sentiment de trahison, pas une réelle trahison, je veux dire.
Oui, mais c'est lié à une sorte d'imposition parentale. Tous les gens meurent et à un moment donné, on est bien forcé de les abandonner.
Et de passer autre chose.
C'est la vie.
Merci beaucoup, Senna, en tout cas, et bon courage à vous. On a entendu beaucoup de témoignages d'enfants, enfin d'adultes, hein, d'ailleurs, mais qui enfants avaient eu l'impression d'être un peu abandonnés par leurs parents réels ou d'ailleurs ou pas réels. On a parlé de l'impact aussi des parents trop autoritaires. Qu'est-ce qui se passe quand les parents sont narcissiques et vous trouvez que c'est de plus en plus fréquent en ce moment?
Oui, alors faut peut-être redéfinir un peu ce que c'est que l'amour. L'amour consiste pas à se sentir à sentir que son enfant fait ce qu'on n'a pas fait, qu'on a envie de faire. L'amour, c'est quand on aime son enfant quand on le considère pour lui-même, qu'on tient compte de ses désirs et qu'il n'est pas là simplement pour satisfaire mes désirs de parent. Je dirais, si on prend les choses comme ça, on peut dire que beaucoup de parents n'aiment pas tant que ça leurs enfants.
Parce qu'ils projettent, en fait, ils ont envie pour leur enfant ce que eux voulaient. Et vous donnez un exemple très flagrant avec les minimis, avec les concours de minimis.
C'est quand même terrible, hein, les mamans qui habillent leur petite fille de 11, 12 ans, mettons, en poupée.
Ou même encore plus petite.
En vente. Et qui sont là pour mettre en relief tout leur, je dirais, leur vœu incestueux d'hypien. Enfin bon, là, je vais un peu vite, mais enfin, c'est de ce registre-là. Hein. Donc ça, les parents qui entraînent leurs enfants à l'école, hein, il faut qu'ils aient des bonnes notes dès la première année.
Une pression épouvantable.
Une pression terrible.
Vous dites aussi qu'il y a aujourd'hui des parents qui aiment trop leurs enfants. Et pourquoi c'est un problème d'aimer trop ses enfants?
Aimer trop son enfant, c'est souvent, je dirais, c'est renverser les choses, c'est considérer un petit peu ses enfants comme soi-même. Et alors, on a tellement souffert quand on était petit parce qu'on nous a privé de bonbons, hein, parce qu'il a fallu se lever à l'école. Alors, on va quand même pas imposer tout ceci à nos enfants. Donc, on va essayer de leur faire vivre tout ce qu'on n'a pas pu vivre, hein, soi-disant par bonté, mais en fait par simplement...
Or, la frustration fait partie de l'éducation,
oui,
c'est ça.
Voilà, et puis alors, quand même, dire non à un enfant, ça le fait souffrir. Donc, il ne faut pas. Mais oui, c'est le malheureux.
Et ça, c'est mauvais après pour l'enfant.
Bien sûr. Aujourd'hui, beaucoup de parents n'osent pas imposer des choses à leurs petits-enfants.
Mais ils ont peur que leurs enfants ne les aiment pas, surtout.
Oui, c'est ça.
Donc on en revient à ce manque d'amour.
Oui, c'est ça.
Mais sauf que ça s'inverse. Ça reprend la parole de Dolto de tout à l'heure, hein, qui dans ces cas-là disait, écoute, tu m'aimes pas, c'est pas grave, moi je t'aime. Et puis demain, tu m'aimeras peut-être.
Dernière question, on arrive à la fin de cette émission, Jean-Claude Lyodé. Pour terminer votre livre, vous dites qu'il faut accepter les manques, finalement, la liberté est à ce prix.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, se construire, devenir humain, grandir, c'est passer par un certain nombre de manques. Mais à chaque fois qu'on perd quelque chose, on trouve autre chose. Par exemple, quand on perd la nostalgie de sa mère, pour reprendre un cas comme ce dont on parlait tout à l'heure, on perd quelque chose. Hein. Je vais perdre ma mère. Elle va plus être si importante pour moi, mais ça va m'ouvrir quand même à la possibilité d'aimer d'autres femmes. C'est quand même pas rien. Hein. On est toujours dans ce jeu de perte. On perd quelque chose pour gagner quelque chose. Et on est sans arrêt là-dedans. Donc on fait des métamorphoses, des mues, comme font les animaux.
Mais il y a moyen de se libérer.
Manière.
Merci beaucoup Jean-Claude Lyodé. Je rappelle que vous avez publié « Quand l'amour manque, comment se reconstruire ?» C'est un livre qui paraît aux éditions de l'Archipel. Et merci beaucoup à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission pour ces témoignages importants. On termine avec Stéphane Besançon et la chronique Nutrition le lundi. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Claire.
Stéphane, vous êtes nutritionniste, vous avez créé l'ONG Santé et Diabète, vous êtes basé à Bamako au Mali. Et évidemment, j'ai d'abord envie de vous demander comment allez-vous, comment va votre association au lendemain de ces attentats?
Bon, on va plutôt bien, à part que ça a été un peu compliqué ce week-end. Et on essaye de... Tout le monde est au bureau ce matin et on essaye de reprendre les activités normalement pour que les activités ne souffrent pas de ce qui s'est passé, mais en essayant de remettre des mesures de sécurité pour que tout le personnel, à la fois expatrié et national, soit en sécurité.
Mais vous voulez bien continuer à travailler, c'est bien ce que vous êtes en train de nous dire. Alors cette semaine et la suivante, on va essayer de donner aux auditeurs, enfin vous d'ailleurs, hein, plus que moi, quelques clés pour équilibrer leur alimentation au cours de la journée. Et cette semaine, vous commencez par le petit déjeuner. Pourquoi ce choix ?
Tout simplement, Claire, parce que c'est un repas indispensable. Il permet de faire le plein d'énergie pour la matinée et contribue à couvrir nos besoins énergétiques et nutritionnels sur la journée. Il faut savoir qu'un bon petit déjeuner doit couvrir 25% de notre apport en énergie quotidienne et qu'il permet d'éviter, comme on peut le constater soi-même souvent, une fatigue en fin de matinée. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, son absence ne peut pas être compensée par les autres repas.
Est-ce qu'on peut dire fréquemment qu'une absence de petit déjeuner, finalement, ça déséquilibre l'alimentation sur toute la journée ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il est démontré qu'une absence systématique de prise de petit déjeuner entraîne une consommation plus élevée d'aliments riches en graisse, en sucre, qui donc favorise intrinsèquement la prise de poids. En fait, l'explication est très simple. L'absence de petit déjeuner entraîne en milieu de matinée une sensation de faim qui est souvent comblée par du grignotage de produits industrialisés gras et sucrés. Ça, c'est un peu le modèle qu'on a en Europe. Maintenant, pour les auditeurs, on sait que dans de nombreux pays où ils résident, en milieu de matinée, ce sont des préparatrices qui préparent, souvent dans la rue, et qui proposent des encas qui sont très gras, très sucrés et souvent très salés, comme des sandwichs, des beignets, des brochettes ou des frites.
Et alors, Stéphane Besançon, on fait comment pour composer un petit déjeuner équilibré à la maison ?
Alors, il faut essayer d'avoir 4 éléments. Alors, c'est souvent pas très facile en pratique, mais en tout cas, les auditeurs peuvent essayer. Qui est d'abord une boisson sous forme de thé, de café, de lait ou d'eau. Alors, pour le café et le thé, ça ramène à une chronique qu'on a fait antérieurement. Il faut faire attention de ne pas rajouter trop de sucre. Il faut aussi un produit à base de céréales, ça peut être des bouillies, pain, biscottes, du riz, là aussi en quantité modérée, un peu de matière grasse sous forme de beurre ou de margarine, mais ça c'est pas obligatoire, c'est si les gens veulent avoir quelque chose accompagnant leurs céréales, et enfin un fruit sous forme de fruits frais plutôt, ou de jus pressé, ou de salade de fruits, mais attention maison, éviter les conserves très sucrées, éviter aussi les jus industrialisés, qui sont là aussi très sucrés.
Et juste Stéphane Besançon, encore une question par rapport à ce petit déjeuner. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi le matin au lever du lit, souvent les gens qui démarrent tôt entre autres disent, mais moi j'ai pas faim à ce moment-là. Est-ce que du coup on peut, je dirais, se préparer le petit déjeuner dont vous nous parlez, se l'emmener et le prendre un peu plus tard ?
Alors, cette question est extrêmement importante et je dirais que là, c'est un point un peu central, surtout dans les pays où vivent beaucoup de vos auditeurs, de préparer, de l'emmener sur le lieu de travail. Parce que c'est en fait le fait de ne pas avoir pris le petit déjeuner à la maison, d'arriver sur le lieu de travail et d'avoir faim, et là, de trouver en face de soi uniquement des produits gras, sucrés et salés. Donc, le fait d'avoir un petit déjeuner, j'allais dire plus sain, qu'on amène avec soi, ça évite de devoir aller acheter justement un produit dans la rue qui, lui, va être beaucoup moins bon et va beaucoup plus poser de problèmes au niveau nutritionnel.
Et je vous rassure d'ailleurs, chez nous, les produits qu'on trouve, ils sont pas forcément dans la rue, mais ils sont dans les machines, ils sont aussi très gras et très sucrés. La semaine prochaine, on va s'intéresser à quel autre repas après le petit déjeuner ?
Ben, on va essayer de voir justement si on a fait un bon petit déjeuner, comment après on travaille sur le repas du midi et le repas du soir pour essayer d'avoir une alimentation équilibrée sur l'ensemble de la journée et comment le petit déjeuner déclenche une journée équilibrée dans sa globalité.
Stéphane Besançon, merci beaucoup pour cette chronique nutrition qu'on retrouvera, hein, comme toujours, sur le blog de l'émission. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. Chronique qui est également sur Facebook et également aussi sur le site internet de Santé et Diabète. On mettra tout ça sur notre site internet. Et demain, on parlera du glaucome, une maladie très fréquente. Si elle est prise à temps, justement, ça évite les problèmes de vue. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.santé@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 84 22 75 75. Et bien sûr, comme toujours, les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et à demain.